La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
7h12, les voix de l'économie, Radio Classique. François, vous recevez le président d'Engie.
Bonjour Jean-Pierre Clamadieu.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Les énergies renouvelables progressent indéniablement, mais lentement. Les coûts semblent importants pour les consommateurs citoyens et de plus en plus difficiles à subventionner pour les États. Est-ce que la transition écologique est vraiment à portée de main ?
Oui, je crois qu'elle est à portée de main, elle est même en train de se dérouler. Et franchement, s'agissant de l'Europe, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de continuer dans cette voie. Parce que pour l'Europe, la transition vers des énergies renouvelables, ou des énergies bas carbone d'ailleurs, bien sûr le nucléaire fait partie de ces solutions, en particulier en France, c'est réussir à aligner compétitivité, parce que à terme, ces énergies renouvelables permettent de produire avec des coûts de production qui sont très très faibles. Disponibilité, parce que ce sont des énergies qui sont chez nous, qui sont produites chez nous, alors que le fossile en Europe est très largement importé. Et puis, bien sûr, un alignement avec les enjeux de la transition climatique.
Mais justement, vous parlez tout de suite de l'Europe. Est-ce qu'au niveau européen, tout le monde tire dans le même sens ? C'est pas si évident en ce moment.
Alors, assez largement, même si en Europe, le choix du mix énergétique est une responsabilité de chaque État. Et la raison pour cela, c'est le nucléaire, parce qu'effectivement, il y a des visions très différentes entre, par exemple, l'Allemagne et la France sur le rôle que doit jouer le nucléaire. Mais au-delà de ça, oui, on tire dans le même sens avec la conviction qu'un marché européen de l'énergie, c'est une condition absolument nécessaire pour atteindre les trois objectifs que j'évoquais. Et un chiffre qui m'a frappé, l'an dernier, en Europe, 44% de l'énergie électrique produite, je ne parle pas de capacité installée, mais vraiment d'énergie produite, c'est de l'énergie renouvelable, hydraulique, éolien et solaire.
Et est-ce que l'Europe, dans le monde, ne fait-elle pas trop la bonne élève, déjà première de la classe, qui se redonne des objectifs encore plus élevés, quitte à risquer le décrochage sur l'aspect prospérité ?
À nouveau, je crois qu'on n'a pas le choix. Enfin, ce qui a provoqué une crise il y a 2 ans, lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, c'est pas qu'on avait trop de renouvelables dans notre mix énergétique ou trop d'énergie bas carbone. C'est au contraire qu'on était trop dépendant du fossile. Donc il faut que nous avancions. Il faut le faire avec pragmatisme. D'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant que l'Europe, qui s'est donné un petit peu discrètement de nouveaux objectifs d'émissions pour 2040, a laissé ouvert les moyens d'y arriver. Un peu discrètement, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de grandes annonces pour dire on va augmenter la contribution de telle ou telle source d'énergie pour atteindre cet objectif. On a dit voilà l'objectif et on va se donner un petit peu de temps, probablement après les élections européennes, pour comprendre quels sont les leviers qui vont pouvoir être activés pour atteindre ces objectifs. Et oui, je crois que l'Europe aujourd'hui a besoin d'être pragmatique, l'Europe a besoin d'être réaliste, il faut qu'on soit capable sur un certain nombre de sujets d'ailleurs de tirer les conséquences des limites qu'on voit à ce qui a été mis en place, mais il faut qu'on garde ses objectifs et ses ambitions.
Et vous êtes persuadé qu'au niveau du consommateur, citoyen, électeur, contribuable, ça suit aussi ?
Alors Engie a fait avec la Fondation Jean Jaurès une étude, en fait on a interrogé les Européens dans la dizaine de pays dans lesquels le groupe intervient, et qu'est-ce qu'on tire de cette enquête ? Un message simple, 9 Européens sur 10 veulent continuer sur la voie de la transition énergétique, et en même temps beaucoup d'interrogations sur les moyens à utiliser, les coûts, l'impact sur la compétitivité,
mais ça, c'est
l'impact
clé parce
sur le niveau
que...
de vie. Et ça, il faut qu'on apporte des réponses. Et c'est notre responsabilité d'industriels, producteurs, commercialisateurs d'énergie, d'apporter ces réponses à nos clients.
Donc vous dites que la réponse vient en partie de vous, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on met du signal prix, ce qui est quand même recommandé par les économistes, typiquement augmenter le prix des carburants ou du tabac sur d'autres sujets pour faire baisser la consommation, à chaque fois que les prix augmentent, le politique est sommé de réagir et donc de subventionner ou de contrôler les prix.
Dans certaines situations, c'est parfaitement légitime. On a vu il y a 2 ans des augmentations de prix de l'énergie qui étaient insupportables pour un certain nombre de nos consommateurs. Donc les boucliers tarifaires qui ont été mis en place avaient leur légitimité. Peut-être faut-il les réserver à ceux de nos clients qui ont la situation économique personnelle la plus difficile. Mais ça, ce sont des moyens d'urgence qu'on mobilise dans des situations de crise. Structurellement, il faut qu'on arrive à faire évoluer notre système énergétique pour atteindre les 3 objectifs que j'évoquais tout à l'heure. Nous sommes persuadés qu'ils sont compatibles, nous sommes persuadés qu'il y a un chemin, nous sommes persuadés que le point d'aboutissement est un point d'aboutissement qui est très favorable pour l'Europe, mais ça suppose une vision de moyen terme et un alignement des efforts de tous les acteurs.
Jean-Pierre Clamadieu, président d'Engie, la guerre en Ukraine nous a fait revoir complètement nos chaînes d'approvisionnement, notamment en gaz évidemment. Ça s'est fait à l'époque un peu dans l'urgence, donc parfois cher, avec les États-Unis par exemple. Est-ce qu'on a aujourd'hui un mix d'approvisionnement gazier plus stable et meilleur marché.
Alors on a un mix d'approvisionnement qui est beaucoup plus équilibré en Europe, avec une mobilisation très forte des capacités disponibles en Norvège par exemple, hein, qui est un pays qui a un potentiel gazier majeur, les États-Unis avec le développement de nouvelles capacités de liquéfaction, le Golfe arabo-persique. Donc quand on regarde la situation de l'Europe, je crois qu'elle est aujourd'hui beaucoup plus équilibrée. Et puis quand on regarde, c'est finalement le juge de paix, quand on regarde les prix, on est revenu à des prix du gaz sur les marchés internationaux qui sont les prix d'avant la crise. Et je crois qu'on est assez serein. On est même très serein sur l'hiver prochain. Il faudrait vraiment une catastrophe géopolitique majeure, par exemple un incident très sérieux qui empêche d'utiliser le détroit d'Ormuz, à partir duquel sont expédiées des quantités très importantes de Genel, en particulier celles qui viennent du Qatar. Mais au-delà de ces scénarios catastrophes, les stockages sont à un niveau très élevé pour une fin d'hiver.
On est à 48% de réservoirs de gaz aujourd'hui.
Ce qui est un record, et effectivement à un moment où la saison de chauffage est terminée. Et donc, nous regardons avec sérénité la situation de l'hiver prochain, tout en restant attentifs, parce qu'on sait qu'il peut y avoir à nouveau des situations qui créent un petit peu de tension.
Vous avez raison de dire que les cours du gaz sont relativement bas. On est autour de 30 à 40 euros du mégawattheure. C'est même très sage. On a du mal à croire qu'il soit monté jusqu'à 10 fois plus haut à l'été 2022, on était à 330 euros.
Absolument.
C'était de la folie. Comment se fait-il que les marchés ne croient pas à cette tension géopolitique quand on pense à ce qui se passe du côté de Gaza, Israël, l'Iran aussi ?
Non, tout simplement parce que au fil de ces deux dernières années, on a été capable de trouver les solutions aux difficultés ponctuelles qui sont apparues ici et là, telle ou telle installation qui ne fonctionne pas, telle chaîne de transport qui rencontre des difficultés. Je crois à nouveau que seul ce point très sensible qui est là, qui est le détroit d'Ormuz, pourrait créer une situation très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Pour autant, un des éléments importants, vous l'avez évoqué, un des éléments importants qui permet cet équilibre et cette sérénité, c'est la diminution de la consommation de gaz. On a assisté, sans doute parce que le signal prix était très fort dans ces directions, on a assisté à des réductions de consommation importantes venant des ménages, venant du secteur industriel. On est à peu près à 10% en deçà de ce qu'était la consommation avant la crise. Et ça, c'est un élément qui contribue à cet équilibre. Ça illustre bien d'ailleurs que dans toute politique de transition énergétique, le premier levier à mobiliser, c'est effectivement le levier des économies d'énergie.
Est-ce qu'il y a encore du gaz russe, même une infime part, qui nous parvient aujourd'hui ?
Alors, en Europe, oui, il y a encore un tout petit peu de gaz qui traverse l'Ukraine. Et puis, il y a encore des cargaisons de GNL qui arrive sur les ports européens.
Jean-Pierre Clamadieu.
BNG n'achète plus de gaz russe.
Vous n'achetez plus de gaz russe. En France, on vous voit comme une entreprise qui fournit du gaz avant tout. Le présent et l'avenir sont bien différents. Où en êtes-vous ? Est-ce qu'il y aura un jour un Engie sans gaz ?
Bon, on est surtout une entreprise. Enfin, on est une entreprise qui, bien sûr, vend du gaz à ses clients. Une entreprise qui, en France, transporte du gaz. On n'est évidemment pas une entreprise qui produit du gaz, mais on est surtout une entreprise qui investit massivement dans le renouvelable. L'an dernier, Engie a investi plus de 6 milliards d'euros dans la transition énergétique, au travers essentiellement d'investissements dans la production d'électricité et de gaz renouvelable. Et c'est ça qui aujourd'hui est au cœur des enjeux stratégiques du groupe.
Et votre propre stratégie climat, vous accélérez, vous rehaussez vos ambitions ?
Alors en fait, on a des ambitions qui sont claires, hein, qu'on a exprimées il y a 2 ans. On avait d'ailleurs demandé à notre Assemblée Générale et à nos actionnaires de soutenir cette stratégie. Ils l'ont fait très très largement. Neutralité carbone 2045. Et puis on s'engage sur le moyen terme, d'ici à 2030, sur une trajectoire qu'on appelle well below 2, pardon pour la complexité, mais ça veut dire bien en dessous de 2 degrés Celsius, ceci étant une référence au scénario de réchauffement de la planète. Nous nous sommes engagés tous les 3 ans à revoir cette stratégie, donc on le fera l'an prochain. Je ne vois pas d'autre direction pour nous que d'être effectivement de plus en plus en ligne avec ces engagements liés à la nécessité d'une transition énergétique.
J'aimerais votre commentaire sur un fait d'actualité qui concerne un de vos concurrents, Total Energy. Est-ce que si Total prend New York comme lieu de cotation principal, c'est le début de la fin de sa nationalité française et c'est un énorme gâchis français et européen ?
Alors, je ne vais évidemment pas faire un commentaire sur la situation d'une autre entreprise dont je ne connais pas les raisons.
Mais disons
aussi
une entreprise X, grosse capitalisation française. S'en va.
Non, moi ce que je dirais simplement, c'est que si je prends le cas d'Engie, et c'est vrai pour la plupart des grandes capitalisations sur la bourse française, nous avons une base d'actionnaires qui est très diverse. Engie hors État, c'est 60% d'investisseurs anglo-saxons, 40% d'investisseurs européens. C'est des investisseurs qui ont des attentes un petit peu différentes, et pour autant, on est capable, chez Engie, de les aligner. Et on a vu lors de notre Assemblée Générale mardi un très fort support exprimé à l'ensemble des résolutions qui étaient présentées. Et donc je pense que le rôle d'un management, le rôle d'un conseil, c'est effectivement de trouver cet alignement entre des actionnaires qui peuvent avoir une vision, qui sont dans un environnement culturel et politique un peu différent, mais qui autour de quelques thèmes très forts, comme la transition énergétique et climatique, se rejoignent et soutiennent la stratégie ambitieuse d'une entreprise comme Engie.
Mais est-ce qu'on va trop loin sur le total bashing et le énergie fossile bashing ?
Je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'énergie fossile, c'est évident, on a du mal à...
Tant qu'on a des voitures qui roulent avec
c'est
ça.
C'est ce que j'allais vous dire. Tant qu'on a des voitures qui roulent, on a besoin d'essence dans ces voitures. Encore que la transition est là aussi bien engagée. Je crois que l'enjeu, à nouveau, c'est de s'engager sans réserve dans cette transition énergétique et climatique. Et c'est ce que fait le groupe. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que le groupe, c'est bien sûr une équipe de direction. Et Catherine MacGregor et ses collègues font un super travail. Mais c'est aussi 100 000 salariés. Et les salariés du groupe, les salariés d'Engie, nous les engageons au quotidien autour de ces thématiques de transition énergétique et climatique, avec des résultats très concrets.
Jean-Pierre Clamadieu, le président d'Engie, en direct sur Radio Classique. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous, François Geffrier. Vous revenez demain avec votre énergie renouvelable, dès 6h pour 1h15 d'actualité
avec
économique.
Plaisir.
Dans 3 minutes, la campagne des Européennes. Jordan Bardella, tête de liste RN, va enfin débattre avec Valérie Hayer, tête de liste Renaissance. C'est ce soir sur BFM TV et David Doucan nous raconte les coulisses de leur préparation Radio Classique.